Bien, le sujet qui m'a été alloué par une décision mystérieuse dont Irène se fait avec un éclair l'expression, c'est le sujet de la grâce. Et c'est un sujet que je trouve très difficile de traiter pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler d'une façon systématique. J'ai eu l'occasion, évidemment, d'en parler beaucoup et souvent sous forme de questions et de réponses au cours des discussions entre orthodoxes et non-orthodoxes. Mais je n'ai jamais fait l'essai d'un exposé tant soit peu méthodique. Et la difficulté d'un tel exposé vient de ce que la grâce est ou bien quelque chose d'infiniment simple, ou bien un sujet de théologie difficile. Et je vais essayer de l'aborder d'une façon qui me semble simple, de telle façon que nous puissions voir ces aspects difficiles en partant d'expériences vécues et non pas, comme on le fait dans les manuels, en partant de prémices théologiques, théoriques, qu'il faut rattacher ensuite, et souvent avec grande difficulté, à l'expérience qui appartient à chacun en réalité. Bien, d'abord, je voudrais dire que le terme de grâce, nous l'utilisons dans la vie courante de deux façons différentes. Nous l'utilisons pour marquer une action humaine ou une action divine, et au-delà de l'action, pour marquer une relation qu'elle exprime. Quand nous disons « grâce, Seigneur, fais-nous miséricorde », c'est à un acte divin que nous faisons appel, et au-delà de l'acte divin, à une attitude de Dieu à notre égard. Et au-delà de l'attitude, à une relation permanente qu'il y a. La différence que je voudrais faire entre attitude et relation permanente est que la relation permanente qui existe entre Dieu et nous, c'est l'amour de Dieu pour ses créatures. L'attitude du moment est une expression qui varie. L'amour divin peut être joie et peut être douleur. La croix du Seigneur est une expression de la sympathie, de la compassion divine dans la douleur. Les actes de charité divine qui ont pour objet les saints, qu'ils rencontrent à mi-chemin, dont ils remplissent et accomplissent la vie, sont ce même amour divin, mais dans sa forme de joie et de communion. Il y a donc ce premier aspect à la grâce, une relation qui s'exprime, une relation de base profonde. Et à l'intérieur même de cette relation, comme j'essaierai de le montrer dans un moment, il y a deux aspects différents. La relation qui existe entre Dieu et toutes ses créatures, quelles qu'elles soient, d'une part, qui sont l'objet de son amour et donc des effets de sa grâce, et la relation très particulière qu'il existe dans le Christ et l'Esprit Saint entre le chrétien et le Père. Mais en dehors, à part ce fait de la grâce vécue comme une relation et une action, il y a un autre aspect au problème. Toujours en nous plaçant sur le plan de l'expérience, le XIVe siècle a été une époque où la nature de la grâce a été discutée, au Mont Athos particulièrement, au cours de deux grands conciles, que l'on appelle les conciles palamites, parce qu'ils ont été centrés sur les activités d'un grand saint de Salonique, Saint Grégoire Palamas. Eh bien, ces discussions sur la nature de la grâce n'étaient pas fondées sur le désir de pénétrer la nature des choses au-delà de la révélation. Elles étaient une tentative de reconnaître ce qu'était en substance l'expérience vécue des hommes de prière et des saints de l'Église. Là encore, c'est dans l'expérience que se trouve fondée à la fois la question et la réponse. Et nous allons envisager cet aspect de la chose. Et en dernier lieu, laissant de côté le problème de l'homme et de Dieu, nous aurons peut-être à découvrir que ce que nous appelons la grâce est un aspect particulier de quelque chose qui appartient à Dieu même, et qu'il y a là tout un domaine de pensée théologique, de découverte du sens profond de la révélation divine sur Dieu même. Je vais donc commencer maintenant par la grâce en tant que relation qui s'exprime par une action divine dans les deux aspects que j'ai cités. Je voudrais d'abord définir brièvement cette relation de base qui existe entre la créature et son créateur. Parce qu'en dehors de cette relation de base, les expressions auxquelles elle donne lieu n'ont aucun sens, demeurent impénétrables pour nous. Je crois qu'il y a un certain nombre de points qui sont des constantes de notre pensée et de notre expérience biblique. La première chose que nous pouvons dire, c'est que toute créature a été voulue de Dieu. Et c'est là quelque chose d'infiniment important pour notre vie intérieure. Toute créature de Dieu, toute créature a été voulue de Dieu. Personne de nous n'existe par accident. Personne ne naît au hasard des choses. Si nous parlons sur le plan des naissances, vous savez très bien que des parents peuvent souhaiter un enfant au cours de toute leur vie et ne l'avoir jamais. L'apparition de la créature est un acte, quelquefois de coopération entre l'homme et Dieu, mais toujours un acte où Dieu a la haute main. Et être voulu de Dieu a des implications, parce que être voulu de Dieu implique que Dieu nous veut non seulement pour une existence transitoire et éphémère, pour nous placer dans une situation que nous pouvons appeler l'histoire, ou bien le devenir de l'humanité, ou bien simplement notre pauvre vie humaine. Si Dieu nous appelle à l'être, c'est qu'il nous veut pour compagnon dans le temps et dans l'éternité. Et cet appel à cette relation éternelle entre lui et nous est fondé sur le fait que Dieu nous veut parce qu'il nous aime. Il nous veut parce que nous lui sommes chers avant même que nous fussions. Il nous connaît avant notre apparition dans le monde. Et sachant ce que nous serons, sachant ce que nous pouvons devenir, sachant tout, il nous veut et nous commande d'apparaître. Et quand j'emploie le mot de commande, je l'emploie sciemment. Notre existence est fondée sur un acte de volonté divine. Nous n'avons pas de racine en autre chose que dans cet acte de la volonté de Dieu. Nous n'appartenons pas à la nature divine. Nous n'en sommes pas une émanation, nous n'en sommes pas une expression, nous n'en sommes pas une décadence. Et c'est là ce que la Bible veut nous faire connaître et saisir lorsque elle nous dit que nous sommes créés du néant. Avant l'existence de toute créature, il n'y a pas de créature. Et il n'y a rien qui la précède dans l'ordre naturel. Le non-être, le néant dont nous parlons, dont Dieu nous tire par sa parole créatrice, n'est pas un simple amenuisement de l'être créé, un amenuisement qui nous rendrait imperceptible, mais qui est déjà une présence. Le néant dont nous parlons est une absence radicale. Nous ne sommes pas. Il n'y a pas un vide autour de Dieu, dont Dieu nous tire. La situation, si nous pouvons parler en ces termes, d'avant la création, c'est la plénitude de Dieu qui se suffit à soi-même, qui est toute plénitude, qui n'a pas besoin de nous pour être plénitude, qui ne se cherche pas un objet à aimer, qui est amour en soi. Eh bien, ceci est très important, parce que cette absence radicale fait que nous sommes réellement voulus. Notre existence possible ne détermine pas l'acte divin. Et cet acte divin établit dès l'abord, entre nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette relation d'amour mutuel. Cet acte divin nous tire du néant et appelé à l'existence sans avoir aucune racine, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit d'autre, nous avons une indépendance que nous n'aurions pas autrement. Si nous étions une émanation divine, nous ne serions pour Dieu, comparé à lui, qu'une ombre. Nous serions une non-entité comparée à une réalité. Nous serions comme une pauvre bougie allumée en plein midi. Nous serions sans valeur, sans intérêt. Ce qui fait notre réalité relative, c'est que Dieu nous pose face à face avec lui comme un être différent de lui. Nous lui sommes superflus en ce sens que pour être Dieu, il n'a pas besoin de nous. Pour être plénitude divine, il n'a pas besoin de nous. Pour être amour divin, il n'a pas besoin de nous. Il se suffit à soi-même. Mais dans son acte d'amour créateur, il nous pose face à face avec lui et dès l'abord établit une relation. Parce que être face à face est une relation. Et cette relation est rendue plus définie par le fait que nous sommes aimé, voulu et appelé à être. Eh bien, voilà la relation de base qui existe entre Dieu et nous. Ce que nous trouvons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sous des formes diverses, c'est cela. Et si nous voulons transposer dans les termes de notre exposé d'aujourd'hui ce que je viens de dire, nous pouvons dire que le Seigneur et nous sommes face à face, et que nous pouvons toujours compter sur des actes divins qui sont des actes de grâce. Dans ce terme de grâce, il y a deux aspects. Il y a d'abord le fait que cet acte d'amour divin qui se déverse sur nous, cette charité si infiniment variée qui nous rencontre dans toutes les situations du péché le plus abject, à la sainteté la plus éclatante, cet acte divin est toujours gratuit. Nous ne pouvons pas forcer Dieu, nous ne pouvons pas le contraindre. Il y a dans cet acte divin un acte de liberté souveraine. Et cette liberté souveraine s'exprime toujours, ou plutôt exprime toujours, l'amour divin. Ceci est très important, parce que si jamais nous nous laissons aller à penser que nous pouvons d'une façon ou d'une autre provoquer l'acte divin, nous ne pouvons plus parler de grâce. La notion de mérite, la notion de conquête, la notion de droit ne sont plus des notions que nous pouvons mettre en parallèle avec la grâce divine. C'est un don gratuit. Ceci est un premier aspect. Le second aspect, je l'ai déjà marqué, cette grâce divine nous est toujours présente et offerte, parce qu'elle est enracinée dans le fait que nous sommes voulus et aimés de Dieu. Et l'attitude de Dieu est toujours un acte d'amour, un acte de charité, dans le sens de chérir, qui vient à notre rencontre. Il y a donc là une gratuité complète qui est fondée sur la nature même de l'acte d'amour, que l'on ne peut jamais forcer, mais qui est toujours présent, à moins qu'il ne meure de lui-même. S'il mourait en Dieu, ce ne serait plus Dieu. Voilà donc la base essentielle de ce problème de la grâce sous son aspect d'action et de relation. Il y a cependant deux nuances que je voudrais introduire, deux points que je voudrais vous introduire. Le premier est le suivant. Lorsque, très jeune, quand j'avais 15 ans, j'ai pour la première fois de ma vie lu l'Évangile, j'ai été frappé, j'ai été profondément bouleversé par le fait que dans l'Évangile, j'ai découvert un Dieu qui est le Dieu de tous. Non pas le Dieu d'une coterie, d'une nation, d'un groupe, non pas un Dieu qui discerne et qui met de côté les croyants d'un côté et les incroyants de l'autre. C'est le Dieu qui nous a tous appelés à être et qui nous aime tous d'un amour égal, d'un amour total, qui peut être joie exubérante et qui peut être la dernière douleur, celle de la croix, lorsque le Seigneur s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tous nous avons été créés, tous nous avons été voulus, tous nous sommes aimés, quelle que soit notre situation par rapport à Dieu, quelle que soit notre réponse à l'amour divin, quelle que soit notre connaissance ou notre ignorance de Dieu. Et dans ce sens, il faut toujours se rappeler que l'initiative appartient toujours à Dieu. C'est ce que l'on appelle, quelquefois en théologie, la grâce prévenante, la grâce qui va au-devant de nous pour provoquer une réponse qui nous sauvera. L'exemple qui vient à l'esprit le plus facilement, c'est celui de saint Paul sur la route de Damas. Lui qui était en route, en vue de persécuter les chrétiens, rencontre le Seigneur. C'est le Seigneur qui vient à lui. Il le rencontre et provoque en lui une réponse qui n'était pas celle que saint Paul aurait jamais attendue de lui-même. Cette grâce prévenante est répandue dans le monde entier. Elle est partout. Elle pénètre tout. Elle entoure chacun. Elle rencontre chacun. Elle appelle. Elle provoque. Théophane le Reclus, un ascète et un théologien du XIXe siècle russe, nous dit que cette grâce divine entoure chacun des pécheurs, entoure chaque être vivant, chaque homme que Dieu a appelé à l'existence, comme une armée qui assiège une ville. Il est là, nous attaquant, nous entourant, nous rencontrant. Il ne peut pénétrer dans l'enceinte de cette ville que si nous lui permettons l'entrée, parce qu'il nous a dotés d'une liberté souveraine. Mais lui ne nous abandonne jamais, lui est toujours là. Il n'y a pas un instant où cet effort ne presse sur nous de tous côtés, sous des formes infiniment variées, sous la forme de l'angoisse humaine et de la charité fraternelle, et du livre qui nous rencontre, et de la personne qui nous parle, et de la situation où nous nous trouvons, où Dieu est présent, par sa grâce, c'est-à-dire par cet acte souverainement libre et gratuit d'un amour qui nous veut du bien, qui veut notre plénitude, notre salut, c'est-à-dire notre transfiguration en fin de compte. De ce point de vue, le livre de Jean Danielou saint païen est un livre extrêmement intéressant parce qu'il insiste sur le fait que la notion où nous vivons tout le temps, qu'il y a un monde chrétien et un monde païen, que le monde chrétien est celui de la grâce, le monde païen est un monde d'où la grâce est absente en un certain sens, et non seulement une erreur théologique, mais une espèce de faute de vision. Et les exemples qu'il en donne sont très frappants. L'Église catholique romaine, comme l'Église orthodoxe, a dans son calendrier, au nombre de ses saints, tous les patriarches de l'Ancien Testament qui ont précédé Abraham. Du point de vue technique, ce sont des païens. Ils ne sont ni de l'Ancienne, ni de la Nouvelle Alliance. Et pourtant, ils ne sont pas des païens dans le sens où, si souvent, nous employons le mot impliquant un rejet de Dieu, un rejet de la vérité, un rejet de l'Évangile. Impliquant, si vous voulez, ce que saint Paul disait dans un contexte très précis, que les dieux des païens sont des démons. Il y a là autre chose. Et quand vous essayez d'analyser la situation, vous voyez cette chose qui semble contradictoire pour une théologie de la grâce qui serait étroite et qui ne tiendrait pas compte des données de l'Écriture sainte suffisamment. Vous voyez Abraham qui reçoit la bénédiction du roi de Salem. Lui qui était à l'intérieur de l'Alliance reçoit la bénédiction divine par l'intermédiaire de quelqu'un qui, techniquement parlant, c'est-à-dire dans le langage ou dans le jargon des manuels de théologie, était extérieur à cette Alliance. Et le fait, cette confusion que nous avons dans l'esprit et qui nous mène à porter des jugements quelquefois monstrueux les uns sur les autres et certainement sur ceux qui appartiennent à l'extérieur visible de l'Église du Christ, cette erreur de vision est fondée sur le fait que nous ne nous rendons pas compte que, à part le Nouveau et l'Ancien Testament, à part l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle, telle qu'elle nous apparaît dans Abraham et dans le Christ, il y a une multitude d'alliances entre Dieu et l'homme. Il y a cette première alliance que, je crois, Jean Danielou et d'autres avant lui ont appelée l'alliance adamique, le lien établi entre Dieu et sa première créature, par le fait que Dieu l'a aimé, voulu, créé et marqué de son image. L'image de Dieu dans l'homme est déjà une alliance, parce qu'elle est une conformité, parce qu'elle rend, selon la parole si hardie de Pierre Pascal, dans son étude sur la piété du peuple russe, parce qu'elle fait de l'homme le semblable de Dieu. Voilà une première alliance de base que rien ne peut effacer. Le péché a défiguré l'homme. Elle n'en a pas. Il a été incapable de l'empêcher d'être un homme. Et ensuite, quand nous voyons le développement des premiers chapitres de l'Ancien Testament, il y a une alliance nouvelle, tragique, entre l'homme déchu et Dieu et la situation du monde créé. Lorsque Dieu établit de nouvelles normes et une nouvelle situation à l'homme créé. Si l'alliance avait été simplement brisée, l'homme aurait été rejeté simplement dans les ténèbres extérieures. Non, une situation nouvelle lui est assignée où Dieu, le Créateur, devient Dieu, le Sauveur qui vient. Le Christ venant, comme on disait au Moyen-Âge. Et plus loin, nous voyons quelque chose de plus étrange encore. Nous voyons une nouvelle alliance que nous devons pénétrer souvent par la pensée et par l'expérience, celle que Dieu établit entre Caïn et lui-même, lorsqu'il dit qu'il le marquera d'un sceau qui fera que chacun qui le rencontrera ne le tuera pas. Il y a là un problème auquel je ne veux pas toucher aujourd'hui du tout, qui est le problème du mal et de l'attitude de Dieu à son égard. Mais il y a là une alliance en ce sens, non pas en ce sens que Dieu fait alliance avec le mal, mais qu'il établit une situation définie pour celui qui commet le mal, en vue de son salut. Nous trouvons l'alliance avec Noé. Nous trouvons plus loin l'alliance avec Ishmaël. Voilà toute une série d'alliances. Eh bien, chaque alliance n'est fondée sur rien d'autre que cette relation de base dont j'ai essayé de vous dire quelques mots au début, et sur le fait que la grâce divine entoure de tous côtés les créatures de Dieu, donnant la joie aux uns, l'espérance aux autres, la foi aux autres, et pressant de toutes parts en vue de sauver ceux-là même qui n'ont ni foi, ni espérance, ni charité dans le sens particulier où l'Écriture sainte emploie ce mot. Et si maintenant nous nous tournons vers l'Église, l'Église conçue, comme j'ai essayé de l'expliquer la fois dernière, comme un organisme, comme un corps vivant, qui est à la fois et également humain et divin, dont nous sommes les membres, mais dont le Christ est le chef, dont nous devenons, dans lequel le Christ et les membres deviennent ce que saint Ignace d'Antioche au 1er siècle appelait le Christ total. Eh bien, dans ce corps mystérieux, la relation entre nous et la grâce est différente. Pour revenir à l'exemple, à l'image donnée tout à l'heure et qui appartient à Théophane le Reclus, poursuivant sa description, il dit « Ce qui distingue celui qui est étranger à Dieu de celui qui lui appartient, c'est que la grâce lui est intérieure. Nous sommes comme une ville assiégée qui a ouvert ses portes et qui est envahie. Il y a ce qu'il appelle l'esclavage bienheureux de ceux qui, étant d'abord les esclaves de Satan, sont devenus les serviteurs de Dieu. Un esclavage bienheureux, parce qu'il y a là obéissance, il y a la soumission, il y a le combat, il y a lutte. Mais une lutte, une soumission, une obéissance qui nous permet de croître et de devenir ce que nous sommes, au lieu de devenir de moins en moins ce que nous sommes, de devenir de plus en plus étranger à notre vraie vocation humaine. Mais cette situation où la grâce est intérieure, est à la fois personnelle et au-delà de la personne humaine. Elle est personnelle parce que la sainteté humaine est personnelle, parce que chacun de nous est le seul qui peut ouvrir son cœur et sa volonté à Dieu. Personne ne peut le faire pour nous. Comme le disait un écrivain du 5e siècle, Dieu, le monde entier appartient à Dieu. Et pourtant, cette parcelle minuscule du monde qui est sous ta peau, ne t'appartient qu'à toi. Tu peux la refuser à Dieu. Cette peau qui nous limite marque la limite du pouvoir divin. Et dans ce sens, oui, nous pouvons laisser Dieu entrer, nous conquérir, nous donner la béatitude, mais nous pouvons aussi interdire à Dieu l'entrée dans ce sanctuaire qui est profané ou qui est reconsacré. Il dépend de nous de faire cet acte d'offrande à Dieu, mais il dépend de nous aussi de le refuser. De ce point de vue, nous pouvons rendre la grâce présente ou absente. Mais il y a quelque chose d'autre encore. Ce don divin, le don de l'Esprit Saint, le don du pouvoir divin qui nous transforme, nous est donné de deux façons différentes. Il nous est donné, comme nous le lisons dans le récit de la Pentecôte, à chacun, personnellement, comme un accomplissement, comme une plénitude qui parfait chaque personne, qui se donne et qui reçoit dans l'amour et dans la liberté. Mais il y a aussi ce don de l'Esprit-Saint à l'Église, dont nous lisons le récit au 20e chapitre de Saint Jean, à la première apparition du Christ après sa résurrection. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Un don qui est collectif, un don qui appartient au cercle des apôtres, qui leur appartient à tous ensemble, mais à personne individuellement. Un don que l'on ne peut pas emporter avec soi, mais un don que nous recevons lorsque nous nous intégrons à cette famille apostolique. Souvenez-vous que lors de cette première rencontre du Christ avec ses apôtres, Thomas était absent et le 12e apôtre avait trahi et était mort. 10 apôtres étaient là seulement. Eh bien, lorsque Thomas revient, l'Esprit ne lui est pas donné séparément. L'instant où il est réintégré à l'unité apostolique, il est en possession de ce don apostolique. Et lorsque Matthias est choisi pour remplacer Judas, qui a déchu, lui aussi ne reçoit rien d'une façon personnelle à cet instant. Il entre dans le cercle et il devient possesseur de tout ce que les autres possédaient dans leur unité, ensemble. Et cette possession que nous avons ensemble de la grâce divine, de la présence de l'Esprit Saint, pour le moment, j'emploie d'une façon un peu ambiguë les deux termes en parallèle, nous établit dans une relation plus particulière que celle du monde extérieur par rapport au Christ, à l'Esprit et au Père. J'en ai déjà parlé la fois dernière lorsque j'ai essayé de définir l'Église dans sa relation à Dieu et dans sa relation à l'homme. Je vais simplement vous rappeler que notre relation au Christ, c'est celle du greffon par rapport à l'arbre greffé, celle de la branche par rapport au cep de vigne. Une vie unique qui est celle du chef, qui est celle du Christ ressuscité, qui s'épanche dans chacun de ses membres, qui déplace la vie précaire et éphémère que nous possédons en dehors de Dieu, reçu, qui nous permet à chacun d'être réintégré à une humanité qui dépasse l'humanité empirique que nous connaissons, l'humanité du Christ ressuscité qui devient notre. Mais ceci se passe, et l'Épître aux Corinthiens nous le dit, par un don et une action du Saint-Esprit. Personne ne peut reconnaître dans le prophète de Galilée le Fils incarné de Dieu si l'Esprit Saint ne nous le révèle. C'est lui qui nous révèle le Christ, et c'est le Christ qui nous donne l'Esprit Saint. Cet Esprit qui nous pénètre et nous transforme. Cet Esprit qui nous assimile de telle façon au Christ, notre chef, qu'il devient en nous l'Esprit filial qui nous permet de nous adresser au Père et de dire « Abba, Père », dans les mêmes termes où le Christ lui-même lui parle, qui fait de nous, avec le Christ total, qui fait de nous, selon la parole si hardie que je vous ai déjà citée dans le passé de saint Irénée, le Fils de Dieu. Eh bien, dans cette situation, notre relation à la grâce divine est plus profonde encore que celle que j'ai essayé de définir par rapport au monde extérieur. Parce que c'est à l'intérieur de l'organisme de grâce que nous nous trouvons, et non pas à l'extérieur. Non seulement la grâce nous est donnée, mais nous ne sommes plus des places fortifiées, ouvertes et conquises. Nous sommes intégrés dans un organisme qui lui-même est pénétré de grâce, un organisme qui est la vie de la grâce. Comme Nick Nisiotis l'a dit il y a quelques années à une conférence, l'Église, c'est le lieu où déferlent les énergies de la Sainte Trinité. C'est la présence même, le lieu de présence de la grâce divine dans ce monde. C'est déjà le monde à venir, présent et actif dans ce monde qui nous semble tellement précaire. Et j'en viens maintenant au deuxième des grands points dont je veux parler, c'est la nature de la grâce. Au XIVe siècle, de grandes discussions ont opposé en Grèce, sur le mot athos et dans le monde de langue grecque, deux théologies que l'on peut dire incompatibles. La théologie